Je vous propose le commentaire de ce texte d'Isaïe tiré du chapitre 56, verset 1, puis verset 6 à 7. Voici la lecture de ce commentaire. Parole du Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice. Car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Des étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel à leurs holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est la première approche de ce texte, c'est sa composition. Alors en fait, Isaïe 56, trois possibilités s'offrent à nous. La possibilité, disons, traditionnelle, qui est acceptée par, disons, ceux qui s'accrochent à la vieille tradition de la rédaction d'Isaïe, pensent que tout Isaïe a été rédigé par le prophète Isaïe, qui a vécu à l'époque du roi Ézéchias. C'était une époque avant l'exil de Babylone. C'était une époque où Israël était en danger, assiégé par les Assyriens. C'était au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et Jérusalem est assiégée. Et puis miraculeusement, Jérusalem va être délivrée. Si l'on prend ce regard, alors ce texte a une connotation d'espérance, parce que ce qu'il nous dit en substance, c'est que si nous nous accrochons au Seigneur en observant le droit et en pratiquant la justice, alors potentiellement tous ces étrangers, toutes ces hostilités à Dieu vont se tourner vers lui et vont se convertir à lui. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec, si vous voulez, le siège de Jérusalem qui s'est levé. C'était inespéré. C'est aussi un message d'espérance par rapport à tous ces ennemis que nous voyons de Dieu dans le comportement de nos frères, dans la société actuelle. Soyons confiants. Continuons à observer le droit et à pratiquer la justice, c'est-à-dire la justice, c'est être juste, celui qui s'ajuste à Dieu. Donc, continuons à vivre dans la foi et la prière et à respecter les commandements de Dieu qui se résument à l'aimer et à aimer nos frères. Et soyons sûrs que le Seigneur trouvera un chemin dans notre société, dans le cœur de tous nos frères. Si nous prenons, ce qui est accepté de plus en plus de nos jours, c'est-à-dire que Isaïe, la deuxième partie du livre, ça fait partie de la deuxième partie du livre, a été rédigé pendant l'exil de Babylone, qui s'est produit vers 586 avant Jésus-Christ et qui a duré à peu près 70 ans. Cet exil où les Juifs ont été déportés de leur patrie, où ils étaient au plus bas, où ils voyaient une terre étrangère et vivaient parmi les étrangers, eh bien, ces Juifs se sont rendus compte que certains de ces étrangers étaient ouverts à leur pratique et à la parole de Dieu. Et même si beaucoup de ces étrangers restaient fermés à la parole de Dieu, c'est aussi le même appel dans les situations critiques. Ayons le regard tourné vers le haut et pensons que Dieu trouvera un chemin et que dans les difficultés, il pourra sortir quelque chose de bon parce que le Seigneur y travaille. Et ceci dans le cœur de nos frères, notamment, et surtout dans le cœur de ceux qui sont le plus éloignés de lui. Ayons toujours cet espoir. Enfin, si nous croyons que des personnes pendant l'exil de Babylone sont tournées vers le peuple juif, et ça rejoint la troisième façon de voir, qui est le trito Isaïe. Certaines personnes pensent que même cette dernière partie du livre d'Isaïe a été rédigée après l'exil, où les Juifs se sont rendus compte qu'il y avait des étrangers qui avaient adhéré à la foi. Eh bien, ici c'est un appel à l'accueil, parce que les Juifs étaient persuadés que eux seuls étaient le peuple élu, et que le fait de naître juif, était une garantie, et c'était la seule garantie d'être dans le peuple de Dieu. Dieu ici appelle à une conversion qui est une ouverture et une tolérance, et un appel à l'accueil des autres. Nous allons approfondir un peu ces trois approches en faisant un commentaire un peu plus linéaire du texte. Alors, parole du Seigneur. Déjà, ce qui est beau ici, on n'y pense pas souvent, mais beaucoup de prophéties commencent par ces mots, parole du Seigneur. C'est quelque chose de très beau de savoir que le Seigneur nous donne une parole, un guide. Il ne nous a pas laissés seuls. Nous n'avons pas à deviner qui il est, ce qu'il faut faire, etc. Il y a sa parole, certes, il faut la méditer, la prier, seul et en église, mais nous avons un guide. Est-ce que nous lisons souvent la parole de Dieu dans un esprit de prière? Est-ce que nous écoutons ce que l'Église a à nous dire à partir de la parole de Dieu pour utiliser tous ces guides que le Seigneur nous offre afin de mieux vivre nos vies? Il faut se poser la question. La première chose qu'il y a à faire, c'est d'intégrer dans nos temps de prière la parole de Dieu. Enfin, le Seigneur dit parole du Seigneur, il s'engage, le Seigneur s'engage. Le Seigneur a des promesses pour nous, il faut y croire, même s'il faut du temps pour qu'elles se réalisent, même si elles se réalisent parfois un peu différemment de ce que nous pensions, le Seigneur fait des promesses, il faut s'appuyer sur ces promesses. Il faut que notre vie ne s'appuie plus sur notre moi, sur le matériel, sur d'autres valeurs qui sont fuyantes, mais sur la valeur qu'est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu qui est issue de la bouche du Seigneur, le Verbe qui est une personne bien vivante, Jésus-Christ, qui est ressuscité. Donc il est là à nos côtés. Nous pouvons bâtir notre vie sur une personne ressuscitée qui nous aime et qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça la parole du Seigneur. Bâtissons-nous notre vie sur le Seigneur ou sur d'autres choses. Si c'est le cas, si nous bâtissons notre vie sur d'autres choses, alors nous avons des idoles. Et tant que nous aurons ces idoles, notre vie sera bâtie sur le sable et non pas sur le roc, comme le dit Jésus. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Alors, observer le droit, c'est être, bien sûr, faire du bien, etc., en conformité avec les commandements du Seigneur. Faire le bien, c'est pas quelque chose de vague. Faire le bien doit s'ancrer dans la volonté de Dieu. Faisons bien attention parce que notre société parle aussi de faire le bien, mais comment dire, certaines personnes préconisent l'avortement pour le bien de la future maman. Est-ce que c'est vraiment du bien? Méfions-nous. Le bien, pratiquer le droit, c'est le droit que nous enseigne la parole de Dieu et l'Église. Attention. Pratiquer la justice, alors ça semble redondant, observer le droit, pratiquer la justice. Mais pratiquer la justice dans la Bible, c'est pas simplement faire le bien, c'est être juste, c'est-à-dire s'accorder à Dieu. Le juste est celui qui vit en compagnie de Dieu. Donc pratiquer la justice, c'est effectivement faire du bien, agir dans notre vie selon ce que le Seigneur nous a montré dans une vie de prière où nous marchons avec lui côte à côte. Alors si nous, comment dire, prions, et agissons en fonction de ce que Dieu nous montre, ce n'est pas simplement pour nous-mêmes. Car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. C'est une œuvre d'évangélisation. C'est quelque chose qui contribue à sauver le monde. Notre prière et notre fidélité à l'enseignement du Seigneur, c'est la base, c'est l'évangélisation par excellence. C'est ça qui va contribuer à ce que le monde s'ouvre au Seigneur. Alors ne nous décourageons pas si nous vivons dans des situations où nous ne pouvons pas témoigner, où notre témoignage est refusé. Accrochons-nous à cette parole, observe le droit, pratique la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Ce n'est pas marqué, prends un hygiaphone, écris dans la rue, Dieu t'aime. Il se peut qu'on ait à dire ça, mais c'est pas marqué ça. C'est pas marqué, barbe les gens en leur parlant de Dieu toute la journée, jusqu'à ce qu'ils disent oui. C'est pas marqué ça. C'est marqué, observe le droit et pratique la justice. Et que, comment dire, cela nous donne du courage de savoir que notre fidélité au Seigneur, notre vie de prière, c'est quelque chose qui contribue justement à ouvrir le cœur de nos frères avec du temps, à la présence du Seigneur, même si aucune parole ne peut se faire. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Alors là, il y a quelque chose de révolutionnaire pour un juif. Parce que jusqu'à l'exil, et encore bien après, il suffit de lire le livre d'Esdras et de Néhémie, les juifs pensaient qu'ils étaient élus et qu'il suffisait d'appartenir au peuple élu pour être sauvé. D'ailleurs, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens et Jean-Baptiste lui-même qui dit « Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes de la descendance d'Abraham que vous serez sauvé. » Je paraphrase. Même de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham. Donc c'est une mentalité chez beaucoup de juifs de l'époque de penser que le simple fait d'être juif, d'être hébreu, suffisait à les sauver. Alors pour nous, il y a un danger, le fait d'avoir une foi à minima, d'aller à la messe, de dire que l'on croit en Dieu, on pense que cela suffit. Combien de personnes n'ont pas une foi vivante et donc contribuent très peu à la venue du royaume de Dieu dans le monde parce qu'ils estiment qu'il est suffisant de dire « je crois » ou parce qu'ils ont été baptisés, etc., etc. C'est pas ça que Dieu veut. Et les Juifs, petit à petit, vont se rendre compte que des étrangers, ou potentiellement des étrangers vont le faire, ou des étrangers l'ont déjà fait. Ça dépend quand le texte a été rédigé, qu'on fait le début du commentaire. Les Juifs vont se rendre compte, et c'est ce que ce texte veut leur montrer, que ce qui compte, ce n'est pas une étiquette, une appartenance, mais c'est le comportement de tous les jours qui compte. Parce que même un étranger va venir vers Dieu, il faut qu'il soit attaché au service du Seigneur, etc., qui observe le sabbat, c'est-à-dire le repos pour prier le Seigneur, etc., il s'attache fermement à son alliance, à cette relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui fait le chrétien. C'est ça qui nous sauve. C'est pas d'être chrétien le dimanche, mais c'est d'être chrétien tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Ce n'est pas les miettes de nos vies que le Seigneur veut, c'est toute notre vie. Et c'est ce que les Juifs sont appelés à accepter à travers ce texte. Et c'est ce que nous sommes appelés, plus de 2000 ans après, 2700 ou 2800 ans après, à accepter. Nous devons vraiment nous rendre compte que ce qui fait le chrétien, ce qui donne le salut, c'est la relation personnelle avec Dieu, par son Fils Jésus, que nous prenons au sérieux. C'est aussi ici un appel à la tolérance, parce que les Juifs pensaient que les étrangers étaient forcément, en gros, damnés, parce qu'ils n'étaient pas juifs. Or, le Seigneur nous dit, ce qui compte, c'est de m'aimer. Alors, nous-mêmes, nous pensons, ça nous arrive, au lieu d'aimer, nous pensons et nous jugeons nos frères, notamment certaines personnes, nous les jugeons irrécupérables. Et nous avons tendance, un petit peu comme ce pharisien dans la prière qui dit « Seigneur, moi je jeûne, je donne la dîme, le dixième de mon salaire, je fais ceci, je fais cela. » Puis il y a un publicain qui dit « Seigneur, prends pitié de moi. » Jésus a dit « C'est le deuxième qui est justifié. » Nous avons souvent cette attitude par rapport à nos frères qui ne croient pas en Dieu, un peu de les regarder avec condescendance de haut en disant « les pauvres, ouf, moi je suis chrétien. » Eh bien, le Seigneur appelle tout le monde. Son amour est pour tout le monde. N'importe quel étranger est digne de son amour. Celui qui est étranger, c'est-à-dire le plus éloigné qui soit de la parole de Dieu, celui-là n'a pas à être jugé, mais à être amené au Seigneur. Comment? Eh bien, observer le droit, pratiquer la justice, car mon salut approche et il vient dans le cœur de ces personnes que nous jugeons irrécupérables, notamment grâce à notre amour et à notre patience. Notre jugement, au contraire, est un obstacle à cette grâce du Seigneur qui travaille dans leur cœur. Alors après, bien sûr, ceci, on peut le prendre aussi à un degré plus, on va dire, c'est une interprétation plus morale, selon le sens des anciens, morale ou anthropologique, c'est-à-dire si on se penche dans l'intérieur de l'âme. Il y a un étranger en tout homme qui est prêt à s'ouvrir au Seigneur, un étranger qui est prêt à s'attacher au service du Seigneur, qui est devenu son serviteur, qui observe le sabbat, etc. Dans toute personne, il y a un étranger c'est-à-dire une soif de Dieu qui est prête à s'ouvrir ou qui est déjà ouverte à Dieu, mais qui est étouffée, donc qui est comme dans une terre étrangère. Eh bien, si nous voyons que dans tous nos frères, il y a une soif de Dieu qui est plus ou moins consciente, si nous voyons ceci, voyons toujours ceci présent à l'esprit parce que ça nous donnera de l'espérance pour mieux les aimer. Nous redoublerons d'espérance et nous aurons un but et cela nous aidera à les aimer et à prier avec eux, enfin pour eux, pardon, avec foi. Alors après, le texte continue. Donc, sont devenus serviteurs tous ceux qui observent le sabbat, je les conduirai à ma montagne sainte. Donc Dieu conduit tout le monde à sa montagne sainte, tout le monde est digne de sa montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. La prière rend heureux, au cas où on ne le saurait pas. Prions avec foi, prions vraiment le Seigneur comme une personne bien vivante qui est là et nous écoute, et nous aurons vraiment un bonheur immense à prier. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à construire cette maison de prière pour ceux qui sont loin du Seigneur, cette maison où ils seront heureux, justement en les aimant et en priant pour eux. Alors je ferai bon accueil sur mon autel à leurs holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Soyons convaincus que vraiment le Seigneur agit en tout homme, qu'il appelle tout homme, pour que tout homme rentre dans sa maison de prière. Toute personne est digne de l'amour de Dieu. Toute personne a une soif de Dieu qui ne demande qu'à se développer. Vraiment, regardons. Cet étranger, cette soif de Dieu dans nos frères, accompagnons-la. Et soyons sûrs qu'à un moment ou à un autre, comme cette graine qui germe pour devenir un arbre, selon une des paraboles de Jésus, eh bien, cette personne, un jour, le Seigneur lui fera bon accueil parce qu'elle se tournera vers lui. Et vraiment, il y aura bien plus que cet étranger qui a du mal à se faire jour dans le cœur de nos frères, ce sera la totalité de nos frères, la totalité de la maison de prière pour tous les peuples, ce sera nos frères dans leur totalité qui vont se tourner vers Dieu. C'est un petit peu une image de l'inconscient, petit à petit la grâce germe jusqu'à ce qu'un jour, librement, la personne puisse dire « Oui Seigneur, je veux t'offrir des holocaustes ». Alors le Seigneur pourra lui faire bon accueil et toute cette personne, toute sa vie sera maison de prière. Soyons convaincus de ça, que cela nous aide à aimer et à prier pour nos frères. Et j'en reviens à ces premières paroles du texte. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Et c'est pas n'importe quoi, c'est parole du Seigneur. Ayons ça dans le cœur. C'est comme ça que nous contribuerons à amener des gens à Dieu, à les rendre heureux. Ça aussi, il faut en être persuadé. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu, le bonheur durable et profond. Si, pour nous-mêmes aussi, soyons conscients que toutes les zones d'ombre, le Seigneur veut en faire une maison de prière, hein, tous les peuples, c'est-à-dire toutes les zones d'ombre, tous nos frères éloignés, tout ce qui est éloigné de Dieu, le Seigneur veut en faire une maison de prière. Alors confions-lui tout, absolument tous nos frères, tout dans nos vies qui sont encore des zones d'ombre, pour que le Seigneur, par sa grâce, travaille et qu'il en fasse une maison de prière. Voilà. Alors je vous propose maintenant de prier, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, apprends-nous à ne pas juger nos frères. Vraiment, donne-nous un regard d'amour sur eux, qui nous aidera à les voir différemment, comme des personnes dignes et appelées par toi. Que cette nouvelle vision guide aussi notre comportement en nous-mêmes. Oui, Seigneur, aide-nous à toujours davantage aimer tous nos frères, en priant pour eux et en les aimant avec beaucoup de patience, de tolérance et d'indulgence, et d'espérance en ta grâce qui travaille en eux et en nous. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.